Les éditions Telem présentent un enregistrement intégral de Lonesome Dove, épisode 2 de Larry McMurtry, lu par Stéphane Cornicard. Chapitre 53. Bien avant que la barge de whisky n'arrive au terme de son voyage, Elmira comprit qu'elle aurait des ennuis avec Bigsway. Même si l'homme ne s'était jamais approché d'elle et ne lui avait jamais adressé la parole, elle sentait son regard lourd posé sur elle, chaque fois qu'elle sortait de son abri pour s'asseoir et contempler l'eau. Après qu'ils eurent chargé le whisky sur des chariots et pris à travers les plaines en direction de Bensforth, ils continuaient de la suivre des yeux, quel que fût le chariot dans lequel elle avait choisi de voyager ce jour-là. Elle avait l'impression que c'était sa petite taille qui suscitait l'intérêt de Bigsway. Par expérience, elle avait remarqué que les hommes de très forte corpulence semblaient l'aimer pour sa taille minuscule, et Bigsway était encore plus imposant que le chasseur de bisons qui l'avait incité à trouver refuge auprès de July. Parfois, le soir, lorsqu'il lui apportait son repas, Fowler s'asseyait auprès d'elle pour échanger quelques mots. Une cicatrice lui barrait le nez et lui fendait les lèvres pour se perdre dans sa barbe. Il avait l'air dur, malgré son regard rêveur.
« Ce trafic de whisky est sur le point de tourner court, » lui dit-il un soir. « C'est les Indiens qui faisaient marcher le commerce. Maintenant, ils sont presque tous enfermés dans les réserves au sud de la région. Je vais peut-être aller vers le nord. »
« Il y a beaucoup de villes au nord ?» demanda-t-elle, se souvenant que Dee avait parlé de s'y rendre. Dee aimait vivre confortablement. Il appréciait les hôtels, les coiffeurs, ce genre de choses. Un jour, elle avait proposé de lui couper les cheveux et obtenu un piteux résultat. Il avait pris la chose avec indulgence, mais lui avait fait remarquer qu'il valait mieux s'en remettre à des professionnels. Dee tirait vanité de son apparence.
« Il y a Ogallala, » répondit Fowler. « C'est sur la plate. Il y a aussi des villes dans le Montana, mais c'est loin. »
Bigsway avait une voix grave. Elmira l'entendait parfois s'adresser aux hommes, sa voix recouvrant même le craquement des roues de chariot. Il portait un long manteau en peau de bison qu'il ôtait rarement, même lorsqu'il faisait chaud. Un matin, il y eut une grande agitation. La brume venait de se lever quand l'homme de garde, un jeune homme très nerveux, déclara avoir vu 6 Indiens sur un monticule. S'il s'agissait d'Indiens, en tout cas, on ne les revit plus. Pendant la journée, les hommes surprirent 3 bisons et en tuèrent un. Ce soir-là, Fowler apporta à Elmira une tranche de foie et un morceau de langue de bison.
« Les meilleurs morceaux » assura-t-il.
Le fort tenait une telle place dans les conversations des hommes qu'Elmira s'était attendue à une vraie ville, alors qu'il s'agissait seulement de quelques bâtiments à moitié en ruine. Une seule et unique femme y vivait, l'épouse d'un maréchal ferrant qui avait perdu la raison après la mort de ses 5 enfants. Elle passait ses journées assise sur une chaise, sans parler à personne. Fowler fit de son mieux pour installer Elmira. Il convainquit les marchands de lui laisser une petite chambre, en réalité un réduit crasseux qui se trouvait près d'un entrepôt où l'on entassait les peaux de bison. L'odeur pestilentielle des peaux dépassait celle qu'elle avait dû supporter sur la barge. Sa chambre était infestée de puces échappées des peaux et elle passait le plus clair de son temps à se gratter. Le fort avait beau être un endroit des plus insignifiants, une grande agitation y régnait, car de nombreux voyageurs ne cessaient d'y arriver et d'en partir, ce qui faisait regretter à Elmira de ne pas être un homme. Elle aurait acheté un cheval et des guerpies. Les hommes la laissaient tranquille, mais ils la suivaient des yeux dès qu'elle quittait sa chambre. Parmi eux, de nombreux Mexicains à la mine patibulaire l'effrayaient bien plus encore que les chasseurs de bisons. Après une semaine passée à se gratter, elle commença à réaliser que ça avait été une belle bêtise de s'embarquer sur la barge de whisky. À Fort Smith, elle avait éprouvé une envie irrésistible de partir. Le jour où elle avait quitté la ville, elle avait eu le sentiment que sa vie entière dépendait de ce départ immédiat, car elle craignait que July ne réapparaisse à l'improviste. Elle ne regrettait pas d'avoir quitté Fort Smith, mais elle n'avait pas prévu d'atterrir dans un endroit aussi sinistre que Bensforth. Dans les villes où transitait le bétail, il y avait au moins des départs et des arrivées de diligence. Si l'on n'aimait pas Dodge, on pouvait toujours aller à Abilene. Mais ici, à Bensforth, aucune diligence ne passait. Tout juste une piste de chariot qui